Ah, bonjour. Bon matin, en fait. Comme Isabelle m'a déjà présenté, je vais peut-être vous parler un peu de l'école multidisciplinaire de l'image. L'école comporte quatre disciplines distinctes. Il y a art visuel, bande dessinée. C'est la seule université au Québec qui présente un programme de bande dessinée. On a le design graphique et la muséologie. La philosophie d'école fait en sorte que les disciplines entretiennent des liens, autant dans les cours que dans les projets de recherche entre les professeurs et les étudiants. Moi, de mon côté, j'enseigne en design graphique. Mon médium est la conjonction des mots et des images. Hein, c'est ce que le design graphique fait, la communication visuelle. Pour la partie des mots, il s'agit souvent des écrits des autres quand il s'agit des commandes plus traditionnelles en design. Quand un client fait appel à un design graphique, les textes sont souvent tous rédigés. Mais moi, je dirais peut-être ma particularité, ou en fait, quand je travaille à mes projets de recherche, c'est moi qui fais la rédaction des textes. J'aimerais préciser ici, ça sonne peut-être évident, mais je dirais que ce n'est pas naturel ou usuel pour un designer d'écrire sur sa pratique ou d'utiliser le récit comme matériau de création. Ici, il y a quelques images, c'est mon site internet là, qui présente un peu toutes sortes de projets que j'ai fait. Et j'utilise, ma pratique est vraiment interdisciplinaire, j'utilise toutes sortes de médiums qui peuvent véhiculer. J'utilise le médium selon la problématique. En fait, la problématique interpelle le médium. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que souvent, les images, illustrations et photographies qu'on utilise en design graphique ont une certaine limite pour véhiculer des idées. Les codes de la photo, de l'illustration, ont leur modalité propre et la conjonction entre les images et les mots permet une pluralité de sens. Une superposition de contenu qui mélange les aspects rationnels et sensibles afin de donner un portrait qui est plus complet, selon moi. Bon, c'est pourquoi j'exploite aussi l'installation, les objets, l'aménagement de l'espace, car chacun de ces médiums permet de dire quelque chose par rapport à une problématique.
OK, fait que ça, c'est juste l'introduction.
Bon, le principal moteur de recherche dans ma pratique a toujours été l'idée du lieu, le concept du lieu. En fait, comment un site se qualifie et acquiert une identité. Et comment nous entrons en relation avec celui-ci. Et comment celui-ci modifie notre propre état d'être. On pourrait dire que mon travail de chercheur-créateur s'oriente autour des problématiques d'identification, d'orientation, d'aménagement de l'espace. Alors, c'est pour ça que je travaille souvent l'idée de la signalisation et de la cartographie. Bon. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler plus précisément du processus de recherche-création et l'idée du périple ou de la notion de voyage qui est associée. Dans ma pratique, j'ai toujours recherché le contact avec des lieux singuliers. Ça a toujours été ma principale préoccupation. Et ça, c'est a posteriori que je m'en suis rendu compte. Il a fallu que je croise le chemin d'Isabelle dans son groupe de recherche-création, elle a déjà dit, mais non, c'est là quand même, je veux dire. Récit voyage artistique hyper médiatique et forme émergente de la création et de la réflexion interdisciplinaire. Pour que je réalise que ma démarche mettait en jeu, depuis ses tout débuts, la notion de déplacement, d'espace liminaire et d'une certaine façon, l'idée de migration. Ça m'est apparu aussi récemment.
Pour exprimer cela, je peux vous présenter un premier projet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce bâtiment-là, il n'existe plus aujourd'hui.
C'était un nouveau voyageur.
Dans quelques années, peut-être.
Non, c'était l'ancien entrepôt frigorifique qui était situé au bout de la rue Amherst, sur les berges du Saint-Laurent, en fait.
C'est là qu'on. Avant la rue des réfrigérateurs électriques, pendant l'hiver, on avait découpé la glace et l'amené dans cet entrepôt-là pour pouvoir le redistribuer pendant les saisons chaudes, pour pouvoir conserver les aliments. Ce projet-là, il témoigne d'une rencontre, je pourrais dire, dans le temps avec un espace liminaire. Okay. Ça, ce projet-là, ça a été réalisé dans les années 95 à 97. Okay. J'ai remonté vraiment loin pour vraiment essayer de voir justement comment cette idée de voyage-là allait chercher loin dans le projet. remonter à Thibault. Donc, ce projet invoque l'idée du péril et plus particulièrement l'idée du rituel dans l'action d'aller à la rencontre de cet espace singulier. Ce qui me fascinait dans ce lieu était la présence de cette ruine en plein milieu de la ville. Le contraste entre la ville, si vous voyez, toujours présente en arrière-plan, et cette carcasse modulée par le climat. J'ai donc recherché pendant toute la durée de mon baccalauréat en design graphique le contact avec les différentes images et ambiances que le climat pouvait affecter sur ce lieu interstice. Soit quand il y avait une météo singulière, une lumière particulièrement intéressante, une tempête de neige ou un violent orage, je sautais sur mon vélo avec mon équipement photo pour aller me positionner exactement au même endroit afin de capter l'effet de l'environnement sur la lune. C'était donc la création sur 2 ans, ce qu'on appelle un time-lapse. Car je savais que le temps était compté. Si vous regardez la dernière image en bas, l'entrepôt est disparu. Il avait été démoli. Il était effacé de la mémoire de Montréal en 1997.
Et ça,
juste préciser, c'était dans ces années-là, c'était avec. Il n'y avait pas de caméra de mieux. C'était les caméras argentiques. Bon, ces moments de solitude étaient pour moi des petits moments, autant hors du temps que de l'espace aménagé et paramétré de la ville. Donc, un rituel autant pour capter la beauté plastique du lieu que pour la dilatation affective que l'accomplissement de ce geste pouvait opérer. Car la vie des ruines et des friches industrielles détonne aujourd'hui, en nous mettant en relation en direct avec les réalités de l'œuvre du temps. Les ruines contemporaines sont une dichotomie visuelle, en opposition avec l'image de la ville hypermoderne, qui se comparait plutôt à un espace comme Ezio Manzini, qui est un penseur en design. Il dit « saturé de présence éphémère, sans mémoire et sans histoire ». Alors, c'est l'idée que aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de matière dans la ville qui permette d'acquérir une patine du temps, de marquer le passage du temps.
Et dans ce projet-là, ce qui était intéressant pour moi, c'était d'aller rechercher ce contact-là, avec ces traces.
Et toujours dans le même esprit, un autre projet qui a eu une longue durée dans le temps et un impact qui est important pour moi, c'est le projet du jardin du solstice d'hiver. Ce projet consistait essentiellement à l'investissement d'une carrière désaffectée au sud-ouest de Montréal, c'est dans la municipalité de Minogeville. Le site était rempli de structures de béton alignées en rang symétrique, avec des grandes lignes de convoyeurs qui pénétraient dans la forêt qui encerclaient l'excavation principale. C'est un genre de Stonehenge du 20e siècle.
Pas la bonne image, excusez-moi. Voilà.
Alors, vous voyez, on a les structures de béton qui étaient à peu près grandes comme les grands ici. Il y avait vraiment un rythme, une structure d'alignement. C'était les vestiges de structures pour pouvoir convoyer et traiter le matériau, la pierre, la dolomite, qui était extraite dans ce lieu. Bon. Fait que le projet consistait à réinvestir le lieu en servant les traces présentes sur le site afin de créer un scénario d'intervention pour l'événement. Okay? Parce qu'il s'agissait de créer un événement. Plus qu'une exposition, parce que je voulais faire vivre une expérience au public. Donc, j'ai utilisé l'esprit du lieu présent afin de construire une nouvelle identité au site et lui surimposer une cosmologie inventée. C'est ça qui est important dans ce projet-là. Le sous-titre était « Voici des objets rituels de peuple imaginaire ». La prémisse consistait en une sorte de travail d'archéologie sur un peuple disparu, de faire vivre au public l'idée de ce déplacement temporel. Le travail de conception s'est réalisé à l'aide de photographies de nombreux relevés sur le terrain, de cartes et de maquettes du lieu, de plans et interprétations graphiques. Mais surtout par d'innombrables visites, périples et nuits passées sur le site pour en faire sa cartographie.
Et peut-être juste préciser, cette partie de la carrière-là était désaffectée, mais il y avait quand même
à côté, il y avait encore la compagnie qui exploitait une autre carrière. mais je m'arrangeais toujours pour pas être vu. Donc, pour faire la cartographie, ben, mon expérience de travail chez un arpenteur géomètre, qui était un de mes premiers boulots à tracer des plans, a joué un rôle dans ma méthodologie déployée pour m'approprier le territoire. J'ai compris que le lieu me permettait de créer un contexte physique aux œuvres et aux interventions, et surtout un ancrage symbolique, même si celui-ci était complètement inventé. Un récit mythologique. Les œuvres et interventions imaginées que j'avais imaginées pour implanter sur le site, je les nommais des révélateurs oniriques. Ils me permettaient d'ajouter une nouvelle dimension à l'esprit du lieu présent, de rajouter une couche ludique, d'étendre le projet au-delà de simples traces présentes.
En rétrospective, le projet,
une fois qu'il était terminé, je me suis rendu compte que c'était pour moi un plaidoyer environnemental, mais une tentative de réconciliation sociale avec, je pourrais dire, les cicatrices du développement industriel. Le projet est un désir de révélation des forces immuables qui nous régissent et qui prenait assis sur le cycle des saisons, où l'idée de tenir l'événement à la journée du solstice d'hiver, pour avoir cette transition-là, dans la lumière, mais aussi dans le cycle des saisons. C'est là que l'idée du rituel et d'espace luminaire entre en jeu. Ce projet, sa conception, ont été pour moi une expérience dans le temps que je puisse comprendre davantage certains cycles et phénomènes naturels. Les processus naturels de croissance, naissance et déchéance, autant que les idéologies associées à notre façon d'utiliser et d'habiter le territoire. C'était ma façon de me connecter avec quelque chose de plus grand que moi. Pour mener à bien mes relevés et la cartographie du lieu, j'ai dû investir personnellement le lieu et habiter le lieu. C'était ma façon de m'imprégner d'esprit du lieu, mais également de procéder à une certaine dilatation de la vie urbaine, parce que j'habitais dans le Maryland. Alors, j'avais besoin, j'y allais à toutes les semaines, j'allais dans le lieu. Parce que la carrière, ici on a le plan, c'est la carte. La carrière, il y avait de l'eau, donc on pouvait se baigner. Donc, c'était ma façon aussi de sortir de la ville, aller me baigner, puis camper dans le lieu, faire des feux. Fait que c'est pour ça que ce projet-là était pour moi un petit voyage. Une espèce que, et tout ça que je dis, c'est peut-être plus l'idée de la migration, parce que c'était effectué sur un mouvement quotidien. Puis j'ai associé à cette idée de migration parce que la définition de la migration va avoir un parcours cyclique. Un déplacement régulier entre des lieux précis afin d'avoir accès à un matériau ou une ressource dans un but de subsistance. Dans mon cas, c'était autant un matériau physique, parce que j'allais prélever des pierres ou du bois dans le lieu, afin de créer des sculptures et objets, que psychique ou psychologique, parce que c'est un lieu de ressources en eau. L'autre définition de la migration consiste dans le déplacement du lieu de vie d'individus, donc de leur lieu d'habitation. On peut dire que d'une certaine façon, le site de la carrière de Tolémie, de Melocheville, est ainsi devenu pour moi un autre lieu d'habitation. D'une part, quand j'ai apporté une qualification, même comme je disais plus tôt, si celle-ci était complètement inventée, c'était un récit complètement inventé. Mais tout de même, cette qualification me permettait d'avoir une prise sur le site et de me permettre ainsi de concrétiser l'acte d'habiter. Et un site devient un lieu lorsqu'il est habité. Et habiter un lieu signifie pactiser avec l'esprit et les diamants présents, comme le disent Christian Norbert Schultz ou Marie-Ange Brian, je pense que j'ai la citation ici. Donc, autant dans ses contingences physiques que culturelles et historiques.
Bon, ces espaces abandonnés que je viens de vous présenter, les deux exemples, se nomment des espaces interstices. Le qualificatif d'espace interstice s'applique à beaucoup de typologies spatiales, mais qualifie toujours un entre-deux, soit d'usage, soit de propriétaire, soit temporel. Ou autre. Ça fonctionne sous la théorie des contrastes, en fait, c'est-à-dire un espace interstice, c'est l'espace entre le public et le privé, entre des terrains vacants et occupés, entre des friches industrielles, dans des ruines, et des bâtiments en fonction, des zones interdites, d'eau sauvage.
Déjà, c'est un peu.
OK. Donc, je vais peut-être sauter à l'autre projet. Ce qui est peut-être juste intéressant ici,
c'est dire que ces espaces interstices participent à l'identité de la ville. OK? Même si on n'est pas vraiment conscient, ils participent à la définition de caractéristiques et qualifient la ville. Pascal Nicolas Lestrade en parle ainsi, il dit « L'interstice déchire l'image élogieuse, esthétisée ou performante que la ville se donne d'elle-même et ouvre des perspectives que pour tout ce que la ville délaisse et désinvestit. » Ça, c'est à Détroit. Ouais, on était passé quelques temps là-bas. Bon, ce qui m'intéresse dans ces espaces, c'est qu'ils sont des univers de possibles autant que des témoins de projets révolus. C'est les ruines de la croissance économique qui symbolisent un certain échec de l'utopie moderne.
Je vais sauter tout de suite au projet de Jutel parce que, OK, si on veut y arriver.
Alors, mon dernier projet de cartographie d'espace interstice, je l'ai réalisé à Jutel. Et Jutel, c'est un village minier abandonné situé à 729 km au nord de Montréal. Okay. C'est une ancienne communauté qui a vu le jour en 1965 avec pour vocation d'héberger des familles des ouvriers travaillant dans les mines d'or de la région. La petite ville comptait plusieurs rues et maisons, un hôtel, un salon de coiffeur, un bureau de poste, une station-service et même un aréna où se donnaient des cours de patinage artistique. Cette dernière information, je l'ai eue par un ancien résident. En 1998, lorsque les mines sont devenues non rentables, la décision a été prise de fermer la ville complètement.
La compagnie a décidé de fermer la ville.
La communauté est complètement abandonnée et les habitants sont relocalisés ailleurs. Les maisons sont rasées et tout ce qui reste, ce sont les trottoirs, les rues et quelques marches comme ça. Mais surtout, ce qui reste, c'est les empreintes des anciennes maisons. Parce que ça a été remblayé avec du gravier. Alors, on a seulement des amoncellements où est-ce que se trouvait l'empreinte de l'ancienne maison. C'est comme des tombes. Ce qui en fait véritablement un village fantôme.
Fait que je suis allé habiter dans le lieu pendant 5 jours là-bas.
J'avais transformé ma voiture en... j'habitais dedans, c'est là que je me disais. Je l'utilisais aussi pour prendre, comme dolly, pour prendre les photos en hauteur. Qu'est-ce que je peux dire? Ce qui est vraiment important, c'est que tous les espaces interstices, il y a toujours l'idée du vide, du vide, c'est ça. Mais lorsque je suis arrivé à Jutel, puis tranquillement, plus je passais de journée là-bas,
je me suis rendu compte que Jutel traitait de l'absence. Hein?
Parce que tout ce qu'il y avait sur lui au passage du temps, c'était, comme je disais, les pâches de gravier des maisons. Okay. J'ai rencontré un ancien habitant de la ville, qui est un cri. M. Fred Kitabich, et juste pour la petite histoire, c'est le cousin de Dominique Rankin.
On a rencontré dans le cadre du séminaire.
Le monde est petit. Alors, il se demandait qu'est-ce que je venais trouver dans celui-là, qu'est-ce que je venais faire ici. Il m'a donné un bon advice, c'est juste nouveau en anglais conseil. En fait.
Un conseil, c'est de me procurer un dossard orange parce que j'étais pour me faire prendre par
c'était
un.
C'était la saison.
C'était la saison de chasse, donc.
Voilà. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire encore. J'étais déconnecté du réseau. Pendant une semaine, c'était la dilatation spatiale aussi. J'étais loin de la maison, loin de la ville, mais aussi loin. Il y avait une dilatation vraiment temporelle aussi. Hein? Pas de lien au réseau, pas de courriel qui arrive. Oh, du cul de temps, Dieu, Seigneur.
ben voilà, bon, ça c'est moi en train de prendre des photos, c'est ça.
Hey, ton truc là, les bars, le Wi-Fi là,
oui.
Avec les trottoirs qui sont là.
Oui, bien ça, en fait, c'est le...
C'est un peu, là, je voulais peut-être juste prendre une minute pour parler. Ça, c'est la partie peut-être de réagrégation. Une des parties parce que je vais réaliser un récit. Je pourrais l'appeler un récit graphique qui va être publié dans le Sabar, une vingtaine de pages à peu près, qui va rendre compte de ce lieu-là et d'avoir des textes et des récits.
C'est quelques images de celui-là. Qui parle de l'absence, qui parle de comment j'ai cartographié le lieu, comment j'ai parcouru le lieu, tout ça.
Une idée wrap-up? Oui. Bien, on parlait d'intention hier, quand on fait un voyage, tu sais, parce qu'on est toujours le touriste de quelqu'un, on est toujours le voyageur de quelqu'un d'autre. Puis on parlait que le voyageur va à la rencontre des autres, mais moi je vais à la rencontre de lieux. Et ces lieux-là me changent, faire une transformation sur moi, parce qu'ils me permettent d'envisager d'autres valeurs, okay? D'une façon... on pourrait envisager d'habiter et d'entrer en relation avec les autres, avec l'environnement, d'une façon peut-être plus holistique, plus spirituelle, plus écologique. Et c'est l'idée aussi des cycles que je vais rechercher dans ces endroits-là, parce que la société moderne n'est tellement pas en train de célébrer l'idée de la déchéance et de la mort. On dirait que j'ai besoin d'aller dans ces espaces-là pour pouvoir aller à la rencontre de cette idée-là. Pour en être.